Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Comme Joël le disait, effectivement, du coup, j'anime souvent la louange, mais j'aime bien aussi prêcher des fois. Et donc ce matin, je suis heureux de partager avec vous ce que j'avais sur le cœur. Bon, je vais pas vous mentir, hein, ce serait dommage, surtout pendant une prédication, mais c'est pas la première fois que je fais cette prédication, c'est un sujet que je travaille depuis quelques mois et qui m'intéresse particulièrement. Et puis, comme c'est la première fois que je prêche aussi dans cette église, pour être réinvité, je me suis dit que j'allais faire une série. Donc ce matin, c'est la première d'une série. Et si vous voulez la suite de la série, bah, du coup, il faudra me réinviter, du coup. Voilà, la série, c'est « Qu'est-ce qu'un être humain ?» Alors vous allez me dire, on n'est pas en cours de biologie, pourquoi aller sur ça ? C'est parti de réflexions ces dernières années. Moi, j'aime bien étudier ce qui se passe dans le monde. J'aime bien me tenir au courant un petit peu des sujets de société, des choses qui se passent. Je trouve que c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce qu'on peut adapter en fait notre foi. Hein, ça fait 2000 ans hein, que Jésus est venu, c'est toujours le même évangile, mais comment est-ce qu'il s'adapte à la société d'aujourd'hui, aux problématiques d'aujourd'hui ? Jésus, du coup, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas en fait tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a toute une partie qui n'existait pas, et pourtant nous on doit apprendre à vivre en tant que chrétien avec le monde dans lequel on est. Un des sujets qui défraye la chronique depuis plusieurs mois, voire plusieurs années déjà, hein, je vous en avais sûrement encore parlé, même pendant cette semaine, peut-être même dans votre travail, etc., c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a des ordinateurs qui deviennent de plus en plus intelligents, et ils sont tellement intelligents qu'à la fin, ils arrivent même à être en compétition avec des êtres humains. Et c'est un peu embêtant pour les êtres humains, puisque une des choses qu'on se dit, hein, qu'est-ce qu'un être humain ? C'est un être humain, c'est quelqu'un qui est rationnel, qui réfléchit, qui utilise son cerveau pour construire des choses, pour faire des choses comme ça, pour concevoir. Et voilà, d'ailleurs, il y en a un philosophe, pas chrétien du tout, français seulement, qui a dit « je pense, donc je suis ». Voilà, c'est ça qui fait que je suis un être humain, c'est ma capacité de réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des ordinateurs qui le font aussi bien, voire mieux que moi ? Est-ce que mon humanité, elle est remise en question ? Alors, c'est des questions qui m'intéressent pas mal. Alors, j'écoute un peu ce qui se passe autour de ça. Puis, j'ai regardé une discussion entre deux entrepreneurs il y a quelques mois. Et ils étaient un petit peu embêtés, puisque l'intelligence artificielle, bien sûr, ça peut être une opportunité de gagner plus d'argent. Pour un entrepreneur, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une grande question sur le monde du travail. Au 19e siècle, quand on a créé des machines qui étaient suffisamment fortes pour remplacer un être humain, 10 êtres humains, 100 êtres humains, quand on a créé des moissonneuses-batteuses, quand on a automatisé plein d'usines, on a dit à des ouvriers, à des agriculteurs, à des personnes en fait qui travaillaient, on a dit bah, « écoutez, désolé, on n'a plus besoin de vous ». Puisque la machine, elle vous remplace et puis elle fait tout à votre place. Et du coup, il y a eu plein de gens qui ont perdu leur travail à cette époque-là. Et ça a été l'arrivée de l'ère industrielle. Aujourd'hui, c'est plus les paysans, c'est plus les gens qui travaillent dans le BTP, c'est les avocats, les médecins, les juristes, tous ceux qui travaillent, voilà, plutôt les cadres un petit peu, les gens qui ont un travail qui est autour de la réflexion. Mais finalement, on leur dit aujourd'hui, bah, écoutez, je suis désolé, il y a un ordinateur qui fait ce que tu fais, mais en beaucoup plus vite et en beaucoup plus efficace. Donc, on va être obligé de se séparer de toi. Donc, c'était ça la discussion de nos deux entrepreneurs. Et puis, pour finir sur une note positive quand même, ils ont dit, mais il y a quelque chose de quand même assez intéressant dans le monde de l'industrie, dans l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui revient à la mode. Qu'est-ce que c'est ? Dans une époque où les ordinateurs font mieux que nous, où ils font des meilleures peintures, ils font des meilleures musiques, ils arrivent à écrire en fait des livres mieux que nous, ce qui revient à la mode, c'est d'être humain. Un être humain, c'est ça qui est à la mode en ce moment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ce qui va être intéressant, c'est pas juste que ce film, il est bien réalisé, il y a des effets spéciaux, etc., c'est qu'il y a un être humain au début qui va avoir mis une impulsion dedans. C'est pas juste que cette image, elle est formidable, elle est très belle, ce tableau, waouh, super, etc. C'est qu'au départ, il y avait un être humain qui essayait de transmettre quelque chose qui était à l'intérieur de lui et qu'il a fait avec ce tableau. C'est pas juste que c'était un livre qui a été écrit automatiquement par une machine qui a essayé de prédire quel était le prochain mot qu'il fallait mettre à la suite. C'est qu'il y a quelqu'un qui a inventé une histoire, un être humain, et qui a essayé de la transmettre au travers d'un livre. L'être humain revient à la mode. Et du coup, en tant que croyant, en tant que chrétien, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est un être humain, finalement ? Et c'est ça, un petit peu, que les avancées technologiques de ces derniers mois viennent questionner chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain ? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des ordinateurs, qu'on est différent des poissons rouges, qu'on est différent des coquers, qu'on est différent des étoiles, qu'on est différent de tout ce qui existe ? Qu'est-ce qui est différent dans l'être humain ? Alors, on peut donner plein de réponses à cette question. Notre société, elle en donne déjà des tas. Mais nous, on va s'intéresser un petit peu à ce que la Bible en dit. Et donc, je disais que c'était une série, hein, donc il y a plusieurs réponses sur lesquelles j'ai travaillé à cette question. Aujourd'hui, on va en voir une. Alors, tous les auteurs de livres vous diront, hein, si vous voulez captiver un petit peu votre auditoire, il faut bien soigner votre toute première phrase. D'accord ? Quand vous lisez la Bible, c'est la même chose. On va voir sur la slide suivante. Première phrase de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Limite, vous pouvez le compléter normalement si vous avez passé un tout petit peu de temps dans l'église. Ce n'est pas un verset qui vous prend par surprise. Et pourtant, c'est un verset qui est tellement familier, peut-être qu'on peut passer à côté de ce qui est exceptionnel et important dans ce verset. Alors déjà, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de définir qu'est-ce que le ciel et qu'est-ce que la terre. Alors, si vous êtes chrétien comme moi depuis un certain temps, hein, quand on vous parle du ciel, vous avez des images tout de suite qui se réveillent dans votre tête. Vous voyez des nuages, bah oui, forcément. Vous voyez des anges. Alors, suivant votre éducation, c'est des anges plus ou moins petits, ou plus ou moins grands, plus ou moins bébés, plus ou moins costauds, un petit peu très lumineux, comme ça. Ils ont l'air contents. Et puis, du coup, il y a l'apôtre Paul et Moïse, comme ça, sur les nuages. Et puis, c'est l'endroit où on va aller un jour, tout ça, et puis on sera là avec une harpe, avec Moïse et l'apôtre Paul, pour l'éternité. Voilà. Alors, je suis reconnaissant que ce ne soit pas exactement l'image que la Bible transmette, même si c'est un peu l'image qu'on a dans nos têtes. Mais le ciel, ce n'est pas ça. Dans la Bible, le ciel, en fait, ça définit... Il y a un autre verset, du coup, qu'on peut lire sur la slide suivante. Dans le psaume 115, verset 16, on lit « Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Donc quand on parle du ciel dans la Bible, on ne parle pas des petits nuages et des anges, etc. On parle du domaine qui appartient à Dieu, le domaine où Dieu habite. Et la terre, c'est le domaine qui nous a été confié à nous. Ce n'est pas juste la petite boule ronde au milieu de l'espace, c'est notre dimension, c'est ce qui nous est confié. Quand la Bible parle des cieux et de la terre, elle nous parle du domaine de Dieu et du domaine de l'être humain. On peut voir la slide suivante, du coup, pour résumer ça. Vous êtes impressionné par la qualité, hein, de ce PowerPoint que j'ai réalisé moi-même, sans aide d'intelligence artificielle. Donc voilà, on a le domaine de Dieu et puis le domaine des hommes. Et puis si on avance un petit peu dans notre histoire, du coup, on arrive dans le récit de la création. Et donc slide suivante. Voilà, voilà, très compliqué, hein, jusque-là. Au départ, dans le jardin d'Éden, le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains sont unis. La Bible, elle va matérialiser ça en disant que Dieu venait en fait sur la brise du soir, pendant la brise du soir, se promener, marcher avec l'être humain. Et ça nous montre à quel point Dieu et l'être humain étaient faits pour jouir d'une relation, d'une harmonie, de vivre en fait ensemble l'un avec l'autre. Alors voilà, vous voyez qu'il y a une petite légende sur le côté gauche. Ceci est un temple. Il faut que j'explique pourquoi. En fait... Dans les anciennes civilisations, à l'époque du coup du peuple d'Israël, il y a 3000 ans, les civilisations qui vivaient à côté d'Israël, du coup, elles identifiaient assez clairement que les dieux, les divinités qui étaient adorées, elles avaient un domaine spécifique. Et puis les êtres humains, ils avaient un domaine spécifique. Pour faire habiter les divinités et les hommes ensemble, il y avait des lieux spécifiques qui étaient créés où le ciel et la terre étaient unis spécifiquement. Et dans le texte de la Genèse, on voit que le ciel et la terre, du coup, après le jardin d'Éden, vont être séparés. Et là aussi, en fait, on va voir, on va suivre tout au long de l'Ancien Testament, comment est-ce que le peuple d'Israël va essayer de retrouver cette union entre le ciel et la terre, cette union entre le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains. Et les rabbins juifs, à l'époque où ils ont étudié la Genèse, vous savez que c'est un sport un peu national pour les juifs, de pouvoir étudier le texte biblique et de rajouter plein de commentaires sur ce texte biblique. Et du coup, quand ils ont étudié le texte de la Genèse, ils se sont dit, mais en fait, il y a un très fort parallèle entre le récit de la création du monde et le récit de la construction du tabernacle. Vous savez, quand Moïse va essayer de dresser un endroit où Dieu va pouvoir habiter au milieu du peuple d'Israël, en fait, il y a vraiment un parallélisme entre le récit de la construction du monde et le récit de la construction du tabernacle. Du coup, les rabbins juifs se sont dit, mais en fait, c'est parce que la création, elle a été faite pour être un temple. La création, elle a été faite pour être un lieu où Dieu et les êtres humains vivent ensemble en pleine harmonie, sont en relation les uns avec les autres. Et c'est pour ça que dans le Jardin d'Éden, il y avait cette unité, il y avait cette proximité, il y avait cet ensemble où le ciel et la terre étaient réunis. Alors si l'histoire s'arrêtait là, ce ne serait pas une histoire très intéressante. Genèse 2, fin de l'histoire, deux chapitres, la Bible, du coup ça se lirait beaucoup plus vite. Mais ce n'est que le début, parce que pour une bonne histoire, vous avez appris ça en cours de français, il faut un élément perturbateur. L'élément perturbateur dans la Bible, on peut lui donner plusieurs noms, il y a plusieurs aspects, c'est un personnage qu'on appelle le diable, qui est matérialisé par le serpent au chapitre 3 de la Genèse. Alors ce n'est pas juste un serpent, une petite vipère, etc. Et tout, La Bible, elle décrit cet être, déjà, qui parle. Alors ça, ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà croisé des serpents, ils ne parlent pas. Ils font tss, voilà, à la rigueur. Mais on ne comprend pas directement. Donc si c'est un être qui parle, c'est que ça nous montre que ce n'est pas juste un animal, c'est un être spirituel. Dans le courant de la Bible, on va découvrir en fait cet être spirituel mauvais, malsain, maléfique. C'est le diable qui va séduire Adam et Ève et qui va les faire quitter ce lieu où le ciel et la terre étaient unis, où Dieu et les hommes vivaient en harmonie. Ce qui va séparer le ciel et la terre, c'est le péché. C'est le choix d'Adam et Ève de vivre en pleine indépendance par rapport à Dieu. Un être humain, ce n'est pas fait pour vivre tout seul dans son coin. Ce n'est pas fait pour être indépendant. C'est fait pour vivre dans la dépendance à Dieu. Et cette dépendance, ce n'est pas une dépendance qui nous place simplement comme des robots ou des clones. C'est une dépendance qui vient du type de relation qu'on entretient avec Dieu. Une relation qui est basée sur l'amour. Un amour qui est partagé. Aimer quelqu'un, c'est accepter de dépendre de lui. Et donc, quand l'être humain a décidé de se séparer de Dieu, c'est comme s'il disait à Dieu, je choisis de ne pas t'aimer. Et donc le péché, il va séparer le ciel et la terre, et la suite de l'histoire tout au long de la Bible, ça va être la tentative de Dieu de réparer ça, de ramener en fait cet espace où Dieu et les êtres humains sont à nouveau unis. On va aller sur la slide suivante. Juste avant la chute, je voulais m'intéresser, oui c'est celui-là, c'est celui, ouais, tout à fait, Genèse 1, 27. Je voulais m'intéresser à un verset qui nous parle de la création de l'être humain, puisque vous vous rappelez, c'est notre sujet ce matin, qu'est-ce que c'est un être humain? Et le moment où Dieu crée l'être humain, c'est un moment qui est intéressant justement pour ça, parce qu'il nous présente une caractéristique spécifique de ce qu'est un être humain. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce terme « image », puisque finalement, et ce sera un peu notre résumé ce matin, qu'est-ce que c'est un être humain ? C'est une image. Alors qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce mot « image » ? Moi, quand j'étais en CP, du coup, si j'avais bien réussi mes exercices, du coup, la maîtresse, elle me donnait une image, puis je faisais collection d'images comme ça. Alors donc, je ne pense pas que ça veuille dire ça. Je ne vois pas trop Dieu faire collection d'images comme moi je faisais quand j'étais petit. Les philosophes, les théologiens, etc., ils se sont posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu crée l'homme à son image. Il y a certaines versions qui vont dire Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Vous savez, traduire, du coup, ce n'est pas forcément facile. Partir de l'araméen ou du grec pour traduire en latin, en anglais, en français. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas une correspondance toujours directe entre les notions, les concepts, la culture de l'époque, et puis la langue d'aujourd'hui, celle qu'on utilise nous tous les jours. Alors du coup, les théologiens, les philosophes, ils se sont posés beaucoup de questions pour savoir, mais qu'est-ce qui est à la ressemblance de Dieu dans l'être humain ? Alors suivant les époques, ils ont dit, bon, c'est notre capacité à ressentir des émotions. Bon, mais si vous avez un... Alors pas un chat, parce que les chats, je pense pas que ça a vraiment des émotions, à part négatives et malsaines, mais si vous avez un labrador, par exemple... Bah vous savez qu'on n'est pas les seuls à ressentir des émotions. Hein. Un labrador, c'est une boule d'émotions sur pattes. Ça se voit sur son visage, d'ailleurs. Enfin, dès que vous rentrez à la maison du travail, il vous saute dessus, c'est le meilleur jour de sa vie, etc. Donc, bon. Donc les émotions, c'est pas ça. On parlait tout à l'heure de la capacité à réfléchir. Ça, on a été très fiers. En France, on a dit, mais la raison, c'est ça qui fait un être humain. C'est ça qui fait notre spécificité, c'est notre cerveau. Bon, ben voilà, puis on se retrouve avec ChatGPT et consorts, et du coup, on se rend compte que finalement, on n'est pas si intelligent que ça. Ce qui, avec un petit peu d'analyse un peu plus profonde, on aurait pu se rendre compte déjà il y a longtemps qu'on n'était pas si intelligent que ça. Donc, c'est pas juste notre capacité à réfléchir qui fait qu'on est à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alors, j'aimerais vous proposer une autre notion par rapport à ce mot « image ». Que moi j'ai peu entendu dans tous les enseignements que j'ai entendus sur ce sujet-là. Et ça nous oblige du coup à revenir effectivement il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans, à l'époque de ces civilisations anciennes. Je disais tout à l'heure, la création est un temple. Si vous aviez un temple, du coup, hein, à l'époque des civilisations anciennes, il y avait tout un panthéon de divinités diverses et variées, entre les romaines, les égyptiennes, les grecs, etc., les phéniciennes, et j'en passe, et les meilleurs. Et donc, quand vous tombiez sur un temple, vous n'étiez pas sûr de savoir à qui ce temple appartenait. Donc il fallait mettre un élément dans le temple qui allait permettre de reconnaître à qui le temple était dédié. Et donc comment est-ce qu'on appelait cet élément ? Une image. On trouve des exemples dans la Bible comme ça de temples, par exemple le temple philistin qui était dédié à l'idole Dagon. Dans ce temple, on voit donc, à un moment, l'Arche de l'Alliance est volée par les Philistins, et puis elle se retrouve dans le temple de Dagon. Et dans le temple de Dagon, il y a une image, c'est une statue en fait, qui est créée à la ressemblance de Dagon pour montrer que ce temple appartient à Dagon. Du coup, dans l'épisode, ce qui est drôle dans la Bible, c'est que pendant la nuit, en fait, l'image en question, elle tombe face contre terre devant l'Arche de l'Alliance, et elle ne tient pas en fait, devant la présence de Dieu. Donc dans un temple, il faut une image. Et bien dans le temple de la création, il fallait une image aussi, et cette image, c'est vous et moi, c'est les êtres humains. Qu'est-ce que c'est un être humain ? C'est une image qui pointe vers Dieu, c'est une image qui est censée refléter comment est Dieu. Quand on regarde un être humain, on devrait voir un petit peu comment est Dieu, qui est Dieu. Un être humain est fait pour refléter qui est Dieu. Et j'utilise ce mot exprès, hein, refléter. Alors je suis content parce que du coup j'avais pas fait attention, mais du coup on est dans un super lieu ici. Qu'est-ce qui reflète particulièrement bien ? Un miroir, tout à fait. Si on mettait un mur entre vous et moi, et puis qu'il y avait une petite ouverture par ici, si je regardais dans le miroir, ben, je pourrais vous voir quand même. Et puis je vous verrais sous un autre angle. Mais du coup en regardant en fait dans le miroir, je verrais un petit peu de qui vous êtes. Un être humain, c'est un miroir qui est censé refléter Dieu vers la création. Quand on regarde un être humain, on devrait voir un petit peu de qui est Dieu. C'est bien comme définition, franchement c'est pas mal, on en est bien quoi. Alors vous allez me dire, il y a quand même un petit problème. C'est que quand on regarde l'être humain aujourd'hui, on n'a pas forcément une révélation spécifique de qui est Dieu. Et c'est là où on voit l'effet du péché sur l'être humain. C'est là où on voit comment est-ce que la séduction de Satan, en fait, elle a détruit quelque chose de manière profonde, en fait, chez l'être humain. Quand vous regardez un miroir, si je prenais un gros caillou et que je le jetais, en fait, sur ce miroir, ce que je ne vais pas faire parce que vous allez avoir des problèmes avec votre propriétaire et tout ça, mais si je le faisais, en fait, ça vous est peut-être déjà arrivé hein, de voir un miroir comme ça qui est brisé, et si vous vous regardez dedans, bah, vous ne vous reconnaissez pas forcément. Parce que comme le miroir est brisé, en fait, il reflète plus correctement. On distingue plus ou moins des éléments qui vous ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait vous, il y a quelque chose qui est cassé. Dans le cœur de chaque être humain, il y a un miroir qui est brisé par le péché dès le départ. Et c'est quelque chose que vous allez, en plus, ratifier, parce que vous allez me dire, bon, ben, le bébé qui arrive, qui n'a rien fait, etc., il n'a rien fait si ce n'est respirer, il n'est pas cassé. Mais en fait, la Bible nous dit que si. À cause de ce choix initial de vivre dans l'indépendance de Dieu, de se séparer de Dieu, de dire non à Dieu, je ne veux pas être en relation avec toi, c'est quelque chose qui est transmis à tous les êtres humains et on doit faire avec. Et en plus, comme on vit dans un monde qui est marqué par le mal, qui est marqué par le péché, cette brisure, elle va aller en s'empirant. Au fur et à mesure de ce qu'on va vivre, des tourments qu'on va traverser, au travers de ce que les autres vont faire à notre sujet, quand ils vont nous abuser, quand ils vont nous violenter, quand ils vont nous pousser, nous abuser. Et du coup, en fait, cette brisure, elle va s'accentuer. Et on va devenir un petit peu, vous savez, je ne sais pas si vous aimez bien, moi j'aime bien les films de science-fiction. Vous savez, c'est ces robots qui étaient construits pour être super beaux, etc. Puis à un moment, ils commencent à fonctionner n'importe comment. Et ils commencent à découper, à acheter des trucs, à tout casser, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on est devenus, nous aussi, les êtres humains. Paul, il va décrire ça, il va dire, je vois le bien, j'ai envie de faire le bien, j'ai envie de faire ce qui est juste, mais j'en suis pas capable. Le pire, c'est que j'essaie de faire ce qui est bien, mais en fait, ce qui a ma portée, c'est de faire ce qui est mauvais. Et donc, non seulement je suis une image brisée, mais je vais casser en plus l'image de mon frère, de ma sœur qui est à côté de moi. Je vais casser encore plus son miroir. Je suis cassé et je casse les autres, moi aussi. C'est ça, en fait, le malheur du péché qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes tous des images brisées. Mais du coup, il y a deux aspects, en fait, dans « image » et « brisée ». Il y a deux mots. Il y a « image ». Ça fait que même dans cette brisure, on reste un miroir. Même si ce miroir il est brisé, il y a quelque chose quand même qui se reflète dans chaque être humain de la part de Dieu. Que cet être humain ait choisi de reconnaître Dieu ou pas. C'est pour ça que vous regardez peut-être les pires dictateurs ou tueurs en série qui existaient, etc., même s'ils ont fait des choses horribles. Quand on fouille bien au fond, il y a encore un tout petit fragment de cette image de Dieu qui avait été déposée en eux. Eux aussi, ils étaient faits pour refléter Dieu, même s'ils s'en sont considérablement éloignés. Et peut-être ça explique aussi, je ne sais pas si comme moi vous avez été un peu ébranlé, alors vous allez me dire c'est des saisons de vie, hein, ça a toujours été là. Mais moi j'aime bien, j'ai longtemps cherché des mentors, des modèles, des personnes qui allaient pouvoir m'inspirer à pouvoir aimer Dieu et à pouvoir le suivre, etc. Et dans mon parcours, alors je suis un peu vieux, mais pas si vieux que ça, mais un petit peu quand même. Dans mon parcours, j'ai été beaucoup déçu quand j'ai mis mon attention, mon admiration sur des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, et puis que je les ai vus en fait faire des choix horribles, tromper leur conjoint, partir avec la caisse de l'église, enseigner des choses sur Dieu qui étaient complètement fausses, déviées. Et dit, mais comment c'est possible ? Ben parce que c'était une image, mais c'est toujours une image qui est brisée à l'intérieur. On devrait tous porter en fait une étiquette, hein, avec un grand panneau marqué « En travaux ». Il y a quelque chose qui a commencé en toi, en moi, quand Jésus est venu vers nous, mais c'est quelque chose qui est toujours en cours. On reste des images brisées qui sont en cours de réparation. La bonne nouvelle, c'est que l'histoire de la Bible, elle va se poursuivre. Alors, je parlais des temples, hein, il va y avoir le désir dans l'Ancien Testament, du coup, de créer un espace où, à nouveau, Dieu et les êtres humains peuvent vivre ensemble. Ça va être compliqué, hein, on ne va pas se mentir, c'est compliqué, parce qu'il y a quelque chose en Dieu qui est important, c'est sa sainteté. Dieu est complètement différent de nous. Dieu, il n'a pas cette fêlure à l'intérieur. Dieu n'est pas brisé, en fait. Dieu n'est pas tourné vers le mal. Et quand on met, en fait, la sainteté de Dieu et le péché au même endroit, il y a un truc qui s'évanouit, qui disparaît, et ce n'est pas Dieu. Donc, quand on met un être humain avec plein de péchés à côté de la sainteté de Dieu, ça fait des étincelles. Je lis en ce moment, du coup, le Lévitique. C'est un livre, il faut faire attention de ne pas le lire avant de dormir, parce qu'il faut s'accrocher un peu pour aller dedans. Mais il y a un épisode qui m'a marqué, c'est comment est-ce que les fils d'Aaron, du coup, le sacrificateur, vont mourir, parce qu'ils se sont dit, c'est bon, on peut ramener n'importe quel feu pour faire brûler devant Dieu, etc., peu importe. Du coup, ils arrivent et puis ils meurent directement. Et on voit dans l'Ancien Testament comment est-ce que les Israélites ils sont devenus très très précautionneux sur comment est-ce qu'on s'approche de la sainteté de Dieu. On ne peut pas faire ça n'importe comment. C'est pour ça qu'il y avait tout ce service avec des sacrifices des animaux, des bœufs, des cochons, non pas des cochons, des pigeons, des moutons, etc., qu'il fallait offrir, parce qu'il fallait en fait que le péché reçoive quelque chose qui puisse le purifier, l'effacer, pour que l'être humain et Dieu puissent vivre au même endroit. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de discussions entre Moïse et Dieu, par exemple. Il dit, s'il te plaît, Seigneur, reste avec nous, tu marches avec nous, s'il te plaît. Et Dieu qui dit, mais je ne peux pas, je vais les détruire, ils sont pécheurs, il y a le mal à l'intérieur d'eux. Je ne peux pas, en fait, rester avec eux sans que ça ait une conséquence directe sur eux. Et tout le long de l'Ancien Testament, on voit comment est-ce que il y a un petit peu cet aller-retour, ce va-et-vient entre la gloire de Dieu qui habite au milieu d'Israël dans les bonnes périodes, quand il y a un roi qui fait vraiment des efforts pour que le temple soit purifié, pour qu'il y ait un service avec des sacrifices, avec quelque chose qui se passe pour que Dieu puisse habiter au milieu d'Israël. Et puis 40 ans plus tard, c'est un roi qui est méchant, qui met des idoles au milieu du temple, qui souille tout, qui saccage tout, qui renvoie en fait les sacrificateurs chez eux, dans leur village. Cette stratégie, en fait, elle se poursuit, mais elle ne fonctionne pas. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur le devant de la scène. On va passer du coup le verset suivant, c'était intéressant, mais on va passer après. Encore du coup... Jésus arrive sur terre. Le Fils de Dieu s'incarne et marche au milieu des êtres humains. C'était le but depuis le début. Et là, Jésus arrive et il arrive à vivre avec les êtres humains. Lui qui est Dieu, il arrive à vivre avec nous. Et pas juste vivre avec nous, mais il va se revêtir de notre peau. Il va se revêtir de nos émotions. Il va se revêtir en fait de tous ces dilemmes qu'on a au quotidien. Il va se revêtir de cette capacité de choix, cette capacité qu'on a de choisir le bien et de choisir le mal. Il va prendre tout ça sur lui, notre peau, notre chair, nos muscles, nos nerfs, tout ça, il va le prendre sur lui et il va devenir réellement un être humain. Et en faisant ça, Jésus, il va accomplir deux choses. Il va devenir l'image parfaite de qui est Dieu. C'était le but depuis le début, c'était ça la mission de l'être humain. Mais puisque l'être humain n'était pas capable de la réaliser, Dieu est venu et est devenu un être humain. Une image parfaite, un miroir qui n'est pas cassé au départ. Et la Bible nous dit qu'il a vécu sans péché, qu'il était pur et parfait dès sa naissance et toute sa vie. Et il est resté en fait une image qui est non brisé, un miroir qui reflète parfaitement qui est Dieu. Et quand on veut regarder dans la Bible et découvrir qui est Dieu, ben il suffit de regarder comment est-ce que Jésus a vécu. Et quand on regarde la vie de Jésus, on découvre qui est Dieu. Quand on regarde Jésus, on voit que sa première manière de s'adresser à Dieu, c'est de dire « notre Père ». Il aurait pu juste dire « mon Père », parce que voilà, lui ça va, il a pas péché, tout va bien, la relation est là. Non, il va dire notre Père, ça veut dire qu'il va nous associer à la relation parfaite qu'il a avec son Père céleste, et il va nous montrer la bonne manière de nous approcher de Dieu. Pas comme un tyran, pas juste comme un juge, pas comme juste un roi, mais comme un Père qui aime ses enfants dans une relation d'amour qui est restaurée où à nouveau le ciel et la terre peuvent cohabiter. Et il ne va pas juste nous montrer qui est Dieu. Quand on regarde Jésus, on voit aussi parfaitement ce qu'un être humain était supposé être. Quand on regarde Jésus, on voit ce qu'un être humain était supposé devenir. C'est le prototype. C'est comme lui, en fait, qu'on est censé être. Donc, quand on observe Jésus vivre, ben, c'est notre maître aussi. C'est lui qui va nous enseigner, c'est le pédagogue, le professeur. C'est lui qui va nous enseigner comment être un être humain. Ce n'est pas un ordinateur qui va faire ça. C'est un vrai être humain qui va nous enseigner à être humain. Et c'est Jésus, la personne du Fils de Dieu. Ce verset de Colossiens, il résume en fait ce que je dis en disant « Le Fils, c'est l'image du Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute création. » L'image parfaite est arrivée, c'est Jésus. Ça aurait pu rester là, puis ça aurait été chouette pour Jésus, mais du coup, pour nous, on est toujours cassé, quoi. On est toujours brisé. Mais c'est le premier-né de toute création parce que ce processus, Jésus vient le mettre à notre portée. Jésus a la capacité de réparer les miroirs brisés. Alors peut-être ce matin, tu sens cette brisure à l'intérieur. Tu n'es pas le premier, hein ? L'apôtre Paul, il disait, l'évangile, je vous résume, Jésus est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. On se dit, bah, Paul, tu as écrit la moitié du Nouveau Testament, tu ne vas pas nous la faire, c'est bon, tu sais que tu es intelligent un peu, tu sais que c'est pas mal, Paul, quand même, tu as eu un impact. La conviction profonde de Paul, c'est Jésus est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul, il sentait vraiment la brisure à l'intérieur. Il avait persécuté l'Église, il avait mis en prison, peut-être tué des chrétiens, en fait, dans son zèle, pharisien, religieux, en fait, pour Dieu. Et cette brisure-là, en fait, Jésus était venu la lui montrer quand il l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Paul, il savait qu'il était brisé à l'intérieur. Il savait qu'il n'y a rien qui venait de sa propre bonne volonté, de ses propres efforts, qui pouvait refléter Dieu. Alors peut-être ce matin, c'est ça que tu sens, en fait, cette brisure à l'intérieur. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a une solution, il y a un espoir. Et c'est pas Walt Disney, hein, c'est pas juste on claque des doigts et puis ouf, la citrouille se transforme en carrosse, etc. Et tout. C'est un long processus en fait qui se produit. Mais il y a quelque chose qui commence à changer à l'intérieur de toi quand tu acceptes que Jésus est l'image parfaite de Dieu et que tu laisses Jésus commencer à réparer cette image brisée à l'intérieur. Que tu laisses Jésus commencer à réparer ce miroir qui est cassé. Et ça se fait petit à petit. Mais il y a quelque chose qui est en route. Il y a toujours le panneau en travaux, mais il y a quelque chose qui est en train d'être réparé à l'intérieur de toi. Et peut-être petit à petit, ce que tu auras besoin, ce n'est pas juste d'être réparé, c'est juste d'être nettoyé. Quand ce processus il est enclenché, il y a des brisures qui commencent à vraiment se réparer. Moi, j'ai une cousine qui fait, vous savez, ça s'appelle du kintsugi. Kintsugi, c'est pas du judo, mais c'est un truc japonais quand même. C'est, vous savez, vous prenez un vase que vous avez cassé chez vous, un beau vase, etc. Et tout, il faut récupérer tous les morceaux. Et puis ensuite, il faut arriver à reconstruire plus ou moins le vase. Alors, je sais pas si met de la colle ou quelque chose. Puis ensuite, vous avez un espèce d'or liquide que vous mettez en fait dans les cassures, dans les brisures. Et puis vous laissez sécher. Et puis ça fait un vase qui est encore plus beau que le vase d'origine. Il a des cicatrices en or. Ben c'est un peu ce que Jésus vient faire à l'intérieur de nous. Ce que Jésus vient faire, ce n'est pas juste de nous refaire à l'identique comme au départ. Nos cicatrices et nos blessures, elles sont toujours là, en fait. Cette brisure, on va toujours la voir. Il y a toujours quelque chose qui se voit. Mais la réparation que Jésus vient effectuer, elle nous rend encore plus beaux qu'à l'origine. C'est ce que Dieu fait. Ce qu'il aime faire, c'est rendre les choses encore plus belles que ce qu'elles étaient. Le business de Dieu, c'est de faire des choses belles. Et quand tu es réparé, en fait, des fois, tout ce que tu as besoin, hein, c'est ce que Jésus va dire ça à Pierre à un moment, en fait. Il va dire, mais si je ne te nettoie pas les pieds, en fait, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Pierre, il dit, ben, nettoie-moi tout entier, la tête, voilà, tout. Et Jésus, il lui dit, non, mais c'est juste les pieds, ça suffit, en fait. Voilà, juste je te nettoie les pieds et ça va. Peut-être que vous avez marché avec Dieu depuis longtemps, mais il y a un peu une fatigue qui s'installe au fur et à mesure. C'est comme si le reflet un petit peu de Dieu, il est un petit peu brouillé. Et là aussi, vous avez peut-être juste besoin d'un petit grand coup de polish un peu sur le miroir, d'être nettoyé et lavé en fait par Dieu pour que le reflet en fait puisse être plus brillant, plus direct, plus efficace. Un petit mot sur la louange quand même, parce que c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Merci d'ailleurs à l'équipe de ce matin, c'était chouette de pouvoir nous approcher de Dieu ensemble. Il y a un verset qui nous parle aussi de ce qui se passe dans la louange par rapport à l'image qu'on est à l'intérieur. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 18. Alors il n'est pas projeté parce que je l'ai rajouté en vitesse ce matin. Mais je vais vous le dire, c'est nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche comme ça, puis qu'on chante des jolies chansons qui parlent de Jésus? C'est une sorte de karaoké un petit peu, hein, et on projette les paroles, on chante ensemble et tout. Ce qui se passe en fait dans ces moments-là, ce qui se passe dans cette interaction qu'on a avec Dieu aussi dans nos vies quotidiennes, quand on loue Dieu, quand on s'adresse à lui, c'est qu'on contemple Jésus, et plus on contemple Jésus, plus il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. Et la transformation, c'est que non seulement on devient un miroir qui est réparé, restauré, mais on se transforme à l'intérieur et on devient un tout petit peu plus comme Dieu. Un dimanche après l'autre, un moment après l'autre, une étape après l'autre, il y y a une transformation qui est en cours à l'intérieur et on est en train de devenir petit à petit comme Dieu. L'apôtre Paul, il va décrire ça en disant que la personne de Christ est formée à l'intérieur de vous. Celui qui était l'image parfaite est petit à petit construit à l'intérieur de nos cœurs. Quand on s'approche de lui dans la louange et l'adoration, quand on le contemple, petit à petit, on devient comme lui. Jésus est l'image parfaite, c'est lui qui est venu rétablir l'union entre le ciel et la terre. Et si vous trouvez que je tire un peu les cheveux, que je tire un petit peu la Bible par les cheveux, non, je vais nulle part avec cette métaphore. Je vais lire un dernier verset, puis on va terminer ce temps ensemble. Dans Colossiens au chapitre 1, verset 20, pareil, je l'ai rajouté un petit peu au dernier moment. Paul nous dit que c'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Le ciel et la terre qui étaient séparés sont réunis en Jésus. La communion qu'on pouvait avoir avec Dieu et qui était tellement loin de nous, qui était réservée à une petite élite dans l'Ancien Testament, elle est maintenant proposée à chacun d'entre nous. Le ciel et la terre sont appelés à vivre ensemble, à être réunis. Dieu, son domaine, et moi, mon domaine, sont appelés à être réunis. Alors vous connaissez la fin du livre, hein, mais ça finit bien du coup. Hein, quand on arrive à l'Apocalypse, hein, le tout dernier chapitre, les deux derniers chapitres, c'est la descente justement de la Jérusalem céleste au milieu des êtres humains. Et la conclusion de ce livre, qui avait commencé par une séparation, c'est la réunion en fait du domaine de Dieu et des êtres humains pour toujours. C'est notre espérance, c'est d'être un jour réunis avec Dieu pour l'éternité. Enfin, de pouvoir aimer Dieu et d'être aimé par lui pour toujours. Le péché aura disparu, la brisure, elle sera guérie, le mal aura été anéanti et nous pourrons vivre avec lui pour l'éternité. Quelle grâce que l'Évangile! La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle en fait pour nous. Il y a une solution à cette racine mauvaise qui est à l'intérieur de chaque être humain. Ce truc qui nous pousse à nous autodétruire, à détruire les gens autour de nous, il y a une solution. Et la solution, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ.